Nadia Aimé, elle est spécialiste en cybersécurité pour Microsoft.
Une histoire et on va voir un parcours stupéfiant à découvrir en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. L'RTBF en fait a décidé de mettre en lumière des femmes dans des secteurs où elles sont peu représentées pour tenter de comprendre pourquoi, notamment celui de ce qu'on appelle les STEM pour Science, Technology, Engineering et Mathématiques.
Bonjour.
Alors, on va commencer par les présentations, évidemment, et votre parcours. Si vous deviez raconter votre histoire, vous commenceriez par où et par quoi ?
Je commencerai par...
C'est une sacrée histoire.
Non, c'est, en fait, la vie n'a jamais un chemin tout droit. Mm-hmm. Donc, je suis arrivée en Belgique en 2008. Et ensuite, comme tout le monde, j'étais jeune, j'avais 15 ans. Et je connaissais rien de la vie, comme toutes les ados. Et soudainement, la vie a changé. La vie a pris une suite que j'aurais pas pu imaginer. J'ai perdu mes parents. Ensuite, je me suis retrouvée à la rue. Et je me suis retrouvée à l'internat, changer des internats après 3 internats, pour finalement arriver à ma maison définitive. Et ensuite, essayer de trouver des formations, de études et des choses comme ça pour que je puisse au moins refaire ma vie. Et ensuite, directement, je me suis trouvée à CEFA à faire la commis de cuisine. J'ai appris à cuisiner. Et après, j'étais assistante administrative, j'étais femme de ménage. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chemin jusqu'au présent que j'ai eu l'introduction au code. Et c'était vraiment bizarre parce que c'est un jour ma patronne qui vient qui me dit « Nadia, va apprendre à coder. » Parce que j'ai besoin que tu fais une tâche pour moi. Et c'est comme ça que moi, j'étais initiée dans le domaine de STEM, on va dire. Et c'est là où j'ai découvert, en fait, que j'avais une passion et que j'avais découvert quelque chose qui était impressionnant. Donc, je me suis appris moi-même.
Ça se passe à l'ULB ?
Ça se passe à l'ULB.
Oui, c'était au secrétariat. On vous demande d'aller suivre une formation chez les mecs du digital, parce qu'à l'époque, il n'y a que des hommes. Et là, c'est l'émerveillement, en fait. Découvrir un monde et voilà.
En fait, il y a un univers qui existe qu'on n'est même pas au courant. Beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'est-ce qui existe derrière l'ordinateur, derrière les applications qu'ils utilisent tous les jours. Et moi, j'ai eu cette découverte et j'ai franchement eu une épiphanie. J'ai eu vraiment une illumination en disant « Waouh !» Et j'ai découvert que j'étais douée, que j'avais une passion et j'ai passé en fait le... première année à imprimer des feuilles de code pour apprendre parce que j'avais pas d'ordinateur, donc vraiment j'avais utilisé tous les moyens, rester plus tard au bureau, aller sur le forum, parce qu'à cette époque-là il y avait pas toutes ces tendances d'apprendre à coder, c'était pas aussi visible, donc là j'ai dû tout utiliser les moyens comme les sites en ligne, YouTube, LinkedIn, Learning, Microsoft Learn et des choses comme ça.
Parce qu'à l'époque vous êtes totalement autodidacte, la première fois qu'on vous demande d'utiliser Excel par exemple, vous allez voir Google. Est-ce que maintenant, vous mettez en place parfois les choses pour que d'autres femmes n'arrivent pas à cette situation-là ?
Non, exactement, parce que c'est pour ça que je suis là, en fait. Je suis visible parce que j'ai envie de faire comprendre aux gens l'outil digital existe et on peut s'apprendre tout. Et c'est pas uniquement sur le tech, c'est sur la façon de cuisiner, c'est sur la façon de... j'ai appris comment monter mes meubles sur YouTube. Donc, le monde digital nous ramène les informations. Et l'information est clé aujourd'hui pour pouvoir faire quelque chose dans la vie.
Est-ce que vous assumez un certain rôle modèle ? Parce que quand vous vous exprimez, vous dites « en fait, je suis mon rôle à moi ». Mais pour d'autres femmes, est-ce que vous voulez être un rôle modèle ?
Je veux être une inspiration pour pouvoir passer à l'action, en fait. Donc, rôle modèle, ça me fait toujours peur, mais apparemment, je le suis.
Ça veut dire quoi, être son rôle modèle à soi, là ?
En fait, c'est pouvoir avoir quelqu'un qu'on peut vraiment voir et s'identifier envers. Ça veut dire le parcours que j'ai eu. J'ai beaucoup de gens qui ont eu le même parcours. Ils n'ont pas terminé l'école, ils sont mamans, ils viennent d'une culture différente, ils ont eu des vécus différents. Et ils s'identifient en moi certaines parties. Ensuite, quand ils me voient, ils me disent « Ok, je peux le faire aussi, je peux essayer. » En plus de ça, je peux lui parler et je peux avoir son vision, je peux avoir son façon de penser et ça peut peut-être m'aider à...
Comment vous expliquez, alors qu'il y a si peu de femmes dans ces secteurs-là, où sont encore les obstacles ?
En fait, je trouve que c'est juste l'information. Parce que quand on voit le hype de l'informatique, par exemple le domaine de cybersécurité, on s'imagine que c'est un domaine de hacker avec le cagou.
Avec la capuche, dans une cave.
Mais ouais. En fait, dans le domaine du tech et dans le domaine de cybersécurité, ça existe énormément de métiers que des gens ne sont pas au courant. Et ce n'est pas uniquement dans l'aspect technique, c'est aussi dans l'aspect loi, c'est dans l'aspect juste recherche. Donc il y a énormément de possibilités pour tout le monde. C'est juste avoir ces informations-là.
C'est l'école alors qui est défaillante, qui n'amène pas justement des jeunes filles vers ces secteurs-là, ne fût-ce que les pluguer à cette envie d'aller vers ces secteurs-là?
Je pense que c'est beaucoup de choses, c'est pas uniquement l'école, parce que l'école, il y a une structure derrière qui apprend le fondation et des choses comme ça, mais je pense aussi que c'est la façon qu'on portrait certains rôles, qu'on voit à la télé, les images qu'il met en termes de hacker, ou quand on parle de cybersécurité, on se focalise toujours sur une seule domaine, mais je pense qu'il faut plus faire découvrir les différents types de domaines qui existent, et les rôles modèles comme moi, les gens comme moi qui travaillent dans ces domaines-là peuvent aussi avoir cet aspect du advocacy pour vraiment parler de leur domaine, en fait, de faire comprendre.
Un élément qui est souvent évoqué par les femmes, c'est, ça reste, la difficulté de concilier une vie professionnelle et une vie privée, familiale. Ça aussi, c'est un obstacle pour concilier femmes et entreprises.
Donc moi, personnellement, je parle de mon expérience, c'est que j'ai arrêté d'essayer de concilier ma vie privée avec ma vie professionnelle parce qu'on va pas, on va juste aller droit au mur, on va sentir mal tout le temps. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je compte les qualités de temps que je passe avec mes enfants plutôt le quantité. Donc ça veut dire que j'essaie vraiment, comme maintenant, vous voyez ma fille, elle est avec moi au radio.
Ouais, elle attend derrière le studio.
Voilà, donc je vais pas me stresser, je vais juste la ramener si j'ai pas le choix. Et en plus de ça, aujourd'hui, le monde nous a ouvert une possibilité de travailler dans une façon plus flexible. Donc, on commence un petit peu à s'améliorer.
C'est aussi pour ça que vous êtes ambassadrice, vous avez été nommée ambassadrice de plan international pour servir d'exemple aux jeunes femmes dans le monde.
Oui.
La Belgique rayonne dans ce cas-là, à ce moment-là. Vous êtes ici à Bruxelles, place européenne, une grosse boîte comme Microsoft. Ça permet aussi de faire rayonner ailleurs dans le monde?
Oui, oui, en fait, parce que ici, comme l'opportunité que j'ai utilisé ça comme une opportunité de vraiment parler avec d'autres personnes qui sont dans position de pouvoir, dans position du changement. Plan International, le Fondation Roi Baudouin, Microsoft aussi, ils font beaucoup de choses pour vraiment encourager les femmes à soit faire des formations avec Microsoft ou soit rejoindre des coding bootcamps, des cybersecurity bootcamps et des choses comme ça.
C'est pour ça que vous êtes spécialiste en cybersécurité. Une menace qui plane sans arrêt, même dans l'actualité. On a encore vu récemment avec différentes apps. Vous, chez Microsoft, comment vous identifiez actuellement la menace? C'est ces fameux hackers en capuches dans leur cave qui sont en train de mener des attaques parfois au nom des États, c'est des individus seuls. Comment vous arrivez à gérer cette menace et comment vous vous identifiez au-delà des clichés?
Oui, mais en fait ici c'est vraiment impressionnant parce qu'on vit dans un monde tellement digitalisé qu'aujourd'hui n'importe qui peut aller dans le dark web et acheter pour 15 euros, pour 15 dollars un rootkit pour faire une attaque. Donc dans le passé, un attaqueur devait être skill, il devait avoir les compétences, mais aujourd'hui il faut juste acheter et payer un service. C'est vraiment un pay as you go, right? Donc ça a changé tellement que qui peut nous attaquer? Ça peut venir de partout. Donc c'est ici où on se focalise vraiment à plus sensibiliser les entreprises, mais aussi les individus sur la sécurité de, par exemple, les applications qu'on utilise, les données qu'on met, tout ce qui est les informations que quelqu'un pourra avoir accès, comme l'identité. C'est ça qui est clé. Donc,
c'est quoi la différence entre un hacker et un attaqueur alors?
En fait, il y a plusieurs types de hackers. Donc, il y a white hacker, il y a black hacker. Donc, il y a plusieurs types. Mais un attaqueur, c'est vraiment quelqu'un qui a une attention malveillante. Et c'est pour ça que souvent, des gens mettent le mot hacker, mais je ne trouve pas ça juste, parce que dans la pyramide du hacker, il y a aussi les bons. Right?
Et c'est un ceux qui essaient de trouver des solutions.
Exactement.
Mais il y a la logique offensive.
C'est ça.
Est-ce que la Belgique, l'Europe, a une guerre de retard face à cette menace, cette cybermenace? On voit qu'on n'a pas un mois sans qu'il y ait une annonce, une nouvelle task force, un nouveau centre en Belgique notamment. Mais est-ce qu'on n'a pas une guerre de retard, tout simplement? Quelle est votre analyse?
Je pense que quand on regarde, par exemple, ici, j'ai vu un reportage sur le 2021, il y a eu 45 000 attaques en Belgique. Donc ça veut dire qu'on met en place énormément de solutions pour sensibiliser les entreprises à vraiment sécuriser leurs données. En plus, il y a des lois qui commencent à sortir et les policies commencent à sortir pour pouvoir garantir que l'organisation font ce qui est nécessaire pour mettre en place une sécurité, au moins une sorte de sécurité pour défendre leurs données, leurs utilisateurs et leur entreprise.
Et est-ce que les Belges ont conscience de ce qui se passe justement dans ce dark web, où on est dans un monde complètement parallèle, où on n'imagine pas du tout toutes ces attaques qui ont lieu peut-être d'ailleurs en ce moment?
Depuis quelques années, je pense qu'on a plus affronté, parce que c'est une guerre qui dure des années, et maintenant finalement, avec tout ce qui se passe dans le monde, on est plus à affronter le fait qu'en fait il y a une guerre de cybersécurité qui se passe. Il y a des identités, par exemple, en plus de gens qui s'en font voler individuellement leur identité via les réseaux sociaux.
Donc on va de plus en plus devoir se protéger aussi.
Exactement, nous aussi, quand on est individu aussi, c'est notre travail d'utiliser l'application. Dans toutes applications, il y a des systèmes de sécurité, le MFA et des choses comme ça. Donc voilà.
Voilà, et pour celles et ceux qui sont intéressés par votre action et votre parcours, Nadia Aimée, on les invite à aller sur votre page Instagram qui s'appelle She Leads Digital. She Leads Digital, c'est votre page Instagram. Et puis, votre histoire, Nadia Aimée, avec d'autres histoires de femmes, sera à entendre également ce soir à Charleroi. La RTBF qui organise une table ronde qui permettra de questionner la place des femmes dans ce secteur, notamment des technologies, secteur où elles sont encore trop peu présentes. Inscription sur le site. Une série de podcasts sur la place des femmes dans les STEM, c'est l'acronyme anglais pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. On sait que les femmes sont encore assez peu présentes dans ces secteurs et on va en parler avec vous, Joanne Berger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et c'est vous qui avez réalisé ce podcast. De quoi parle-t-il et surtout de qui parle-t-il ce podcast?
Donc ouais, le titre du podcast c'est Sciences et Tech, elles prennent leur place. Et donc comme vous l'avez dit, c'est un podcast réalisé par les Grenades. Et chez les Grenades, au sein des Grenades, on a à cœur de mettre en avant des femmes, pas que le 8 mars, c'est tous les jours. Mmh. Et donc ce podcast s'intéresse particulièrement aux femmes actives dans les milieux des sciences, de la recherche ou de la tech, parce que comme vous l'avez dit, elles restent largement minoritaires. Donc notre objectif, c'est de créer des rôles modèles. Et donc là, c'est une série de podcasts, mais on produit aussi des articles, des vidéos. Et d'ailleurs, ce soir, il y a le film « Casser les codes » de Safia Kassas qui sera diffusé sur la Une.
À voir à 23h10, effectivement.
À ne pas rater, parce qu'il est complètement dans cette logique de mettre en avant...
Et sur ovio.be aussi, bien sûr.
Ouais. Et donc, ce podcast, c'est le portrait de 4 femmes qui travaillent dans des milieux complètement différents, qui ont des âges différents, des parcours complètement différents. Donc il y a Célia Sapar qui est climatologue, Sarah Batou qui est radiobiologiste, Nadia Aimée qu'on a entendu ce matin.
Qui était l'invitée de Matin Première,
ouais,
45.
Qui est spécialiste donc, en cybersécurité, et Jeanne Bout qui est ingénieure en biomécanique. Alors dans ce podcast, on rentre en immersion dans leurs univers et donc elles parlent de leur vie professionnelle, mais évidemment aussi de leur parcours personnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si chaque parcours est singulier, on voit des lignes communes. Et donc cette série de 4 épisodes se veut en fait un récit collectif, un peu choral et sororal, et on espère qu'il pourra inspirer d'autres femmes à rentrer dans ces carrières.
Alors on va écouter un premier extrait de ce podcast. C'est Célia Sapar, vous en avez parlé, qui est climatologue et qui s'exprime à propos du harcèlement en mission. On l'écoute.
Parfois il y a un peu des soucis au niveau hiérarchique. J'ai été avec un chef scientifique qui avait absolument aucune empathie. Qui n'écoutait absolument rien, mais c'était pas seulement les femmes, c'est quelqu'un qui avait pas une très bonne estime des autres personnes, donc le sujet est encore différent. Sur le terrain, quand j'étais au Groenland, on a une tradition, c'est que le samedi, on se lave, et on a un moment tous ensemble, et souvent on danse, on chante, etc. Et donc quand on est la seule femme et qu'il y a 30 hommes sur place, on se fait toujours inviter à danser et tout, donc ça peut entraîner parfois des situations un peu compliquées, et il m'est arrivé d'être dans ce genre de situation, et certains peuvent être un peu, enfin moi il m'arrive de refuser de danser simplement parce que j'ai pas envie et je vais pas me forcer, et certains peuvent le prendre un petit peu mal. Donc j'ai vécu ce genre de situation, mais j'ai entendu d'autres situations de collègues femmes sur le terrain,
donc sur le terrain, qui sont beaucoup plus graves. Donc c'est ce qu'elle continue. Donc par exemple des hommes en mission qui obligent des doctorantes à dormir dans la même tente, on peut imaginer l'horreur que c'est de vivre ça. Et donc ça constitue évidemment un frein à l'entrée des femmes, à ce que les femmes continuent dans cette voie. Mais il y a plus, les freins sont multiples en fait, et c'est de ça que parle le podcast notamment. Donc outre les violences, heureusement avec le mouvement MeToo ça évolue, mais il y a aussi évidemment l'éducation genrée, et ça commence dès la petite enfance. Donc par exemple avec les jouets, qu'on donne aux petits garçons favorisent la capacité d'abstraction, par exemple, et ça, Jeanne Bout en parle très bien.
On va l'écouter tout de suite, parce qu'il nous reste vraiment une toute petite minute, donc on va l'écouter.
Ouais. La toute grosse majorité des médicaments ont été testés essentiellement sur des hommes. Et donc, par après, bien, ces médicaments sont vendus dans le commerce et sont utilisés aussi par les femmes, évidemment, mais qu'il y a vraiment un gros manque d'études cliniques chez la femme. Et ça, c'est quelque chose qui me choque, en fait, qu'il y a si peu d'études cliniques sur les femmes, et que la plupart des études cliniques sont faites sur des hommes blancs, de manière générale.
Et donc là, on a entendu Sarah Batou. Et donc, en fait, une des conséquences, on passe directement, une des conséquences de ce manque de femmes dues aux violences, à l'éducation genrée, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes dans la recherche, et ça crée des biais. Et ce dont parle Sarah Batou, c'est vraiment un gender gap, les angles morts liés aux biais dans les sciences vu que pour l'instant, c'est surtout des hommes qui sont dans les sciences.
La suite dans ce podcast Science et Tech, elles prennent leur place. Podcast créé par les grenades, à retrouver sur Ovio.be et sur vos applications de podcast préférées. Merci beaucoup.